Côté gestion mentale, qu'est-ce que je vais avoir comme projet? Bien sûr, introspection, gestes mentaux et dialogue pédagogique. Je les aurai sans cesse présents en moi et à chaque occasion, je vais rebondir dessus, que ce soit de façon individuelle ou en groupe. Côté confort, je vais leur proposer de choisir de travailler seul ou par petits groupes et je les assure tous de pouvoir prendre le temps d'assimiler et de s'approprier la démarche du champ lexical, chacun à son rythme. Mais j'aurai une visée finale, parce que figurez-vous qu'en MAPI, que ce soit du côté des formateurs ou du côté des décrocheurs, il n'y a aucune exigence de résultat. Alors nous, par respect pour les jeunes qui viennent, on a cette exigence. Et personnellement, mon exigence, elle est l'autonomie de pouvoir un jour produire individuellement un texte. Voilà comment un matin je les accueille. Je suis venue plus tôt et le tableau est tagué. Je n'ai pas pu reproduire les tags, mais je vous l'ai fait comme ça. Tagué de mots et d'extraits de phrases qui sont issus du poème de ma bohème. Et je me positionne pendant l'accueil, le quart d'heure d'accueil qui est tous les matins le même, et j'observe. Je laisse agir. J'écoute en silence, j'observe et je prends quelques notes. Je vous laisse lire le genre de réflexion qui fuse entre eux. Alors voilà, ça prête à rire, mais ça prête aussi à une prise de conscience de là où ils en sont quand ils nous arrivent. Suivi par un temps d'évocation. Et ce temps d'évocation, il est très simple, hein, on ne complique pas. Allez, mettez-vous devant le tableau, essayez de revivre ça maintenant. Chacun pour vous, qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur de vous? Et là, il y a une petite prise de conscience dont ils partagent volontiers le contenu. Et il y en a un qui finit par dire, bah, c'est plus tout à fait pareil que quand je l'ai vu pour la première fois. Ça, c'est déjà une petite porte qui s'ouvre. À la question, madame, on va faire quoi? Me voilà de nouveau confrontée à cette liberté d'enseigner, mais eux d'apprendre ou de ne pas apprendre. Alors je leur dis, vous allez devenir auteur. Vous allez raconter ou vous raconter. Et puis vous allez enrichir votre vocabulaire. Et je permets d'ajouter que j'ose leur demander ce travail parce qu'on est au deuxième trimestre et que je vois en eux tellement de richesses que je trouverais dommage de ne pas les exploiter. Je leur fais confiance, ils y arriveront. Effectivement, il y a eu déjà évolution. Le « je suis nul » qui fusait régulièrement en début de trimestre, au premier trimestre, est régulièrement remplacé par « ça va, Sam Dame ?» ou même parfois « oh, trop content d'avoir déjà écrit ça ». Donc les choses évoluent, lentement mais sûrement. Je suis confrontée à bienveillance, exigence. En tant que formatrice, je n'ai de cesse d'être dans un équilibre entre mes exigences et la bienveillance vis-à-vis de chaque élève. Ce que je peux déjà dire à l'un, l'autre n'est peut-être pas encore prêt à l'accueillir. Et je ne voudrais surtout pas lui faire croire que c'est parce qu'il est moins doué, ou au contraire, que je n'ai pas trop d'exigences vis-à-vis de lui. Donc je propose de s'appuyer chacun sur un modèle s'il le souhaite, un poème, une fable, un rap, une chanson. En revanche, j'ai une exigence, user de son intelligence créative pour répondre à l'appel ancestral du verbe qui leur manque tant. Et quand je les assure de leur prodiguer un accompagnement bienveillant, j'aurai encore une exigence, inciter à repousser avec courage les limites parfois confortables de l'ignorance. Quelles seront les portes d'entrée? Elles seront...
Trop vite.
Pardon. Elles seront totalement individuelles. Pour les uns, une porte d'entrée très classique, la leçon. La leçon que j'aurais mise sous feuillet un peu simplifié. Pour les autres, des fiches, soit que j'ai créées moi-même, soit que je glane sur Internet. Et parfois, il y en a qui me disent « Mais madame, il n'y en a aucune qui me va ». Dans ce cas-là, je suis à la disposition du jeune et on se met à créer son propre outil pour entrer en lien avec cette leçon dont il aura besoin pour aller plus loin. Dans un premier temps, on va faire ensemble à l'identique. Le faire ensemble à l'identique, en tout cas pour ces jeunes, est fondamental parce qu'il rassure. Donc j'invite les jeunes à venir au tableau avec un thème choisi et ensemble nous déclinons le thème. C'est un remue-ménage que l'on fait sur un tableau paperboard dont les feuilles seront affichées dans le local et elles y resteront durant les 3-4 semaines que dureront ce projet d'écriture. Thème de prédilection choisi par les élèves. Amour, jalousie, mensonge, inceste, homosexualité, haine, peur, chagrin, amitié, pauvreté, souffrance, maladie, injustice. Le travail effectif. Je vous le redis, ils peuvent choisir de travailler seul ou en groupe. Cette année-là, j'en ai eu une qui a voulu travailler seule. Voilà la consigne. Dans le texte choisi comme modèle, remplacez les verbes, les adjectifs et les noms communs, chacun par un mot de même nature, en lien au nouveau champ lexical choisi. Les couleurs font référence à ce que nous avions travaillé en premier trimestre. Ils s'appuient dessus ou pas, mais je sais que certains les aiment. Nous avions travaillé ensemble le théâtre de la grammaire et il avait remporté un franc succès. Donc, je les mets en geste de réflexion. Alors, nom commun, adjectif, verbe, c'est guidé, on le travaille tous ensemble et puis petit à petit, chacun dans son coin va commencer son travail dans son petit groupe. Dès les premières phrases écrites, des petites exclamations de joie se font entendre. Et au fil des semaines, je sens que les projets se font, que le texte devient plus fluide, que la production augmente. Et à un moment donné, je vais les sentir prêts. Et je vais leur dire, ça y est, maintenant, chacun pour soi, vous allez vous mettre à travailler tout seul. Et chose merveilleuse, il n'y en a aucun qui rechigne. Ils acceptent tous de s'y mettre au travail tout seul. Et même plus que ça, ils vont aussi avoir leur cahier de vocabulaire personnel. Ce qui veut dire que à chaque fin de cours, les 10 dernières minutes, il y a obligation pour chacun d'entre eux, quand ils se sentent prêts, de proposer 2 nouveaux mots de vocabulaire au groupe. Ces 2 mots, on en fait des pauses évocatives en groupe. L'une pour être sûr que chacun comprend les mots, l'autre pour le geste de mémorisation. Et pour être sûr qu'ils soient en projection d'avenir avec ce geste de mémorisation, eh bien je les mets toujours en projet du fameux challenge de vocabulaire que j'organise en fin de trimestre et auquel ils ont fini par prendre goût. Nous voilà donc dans le plaisir de connaître et le bonheur d'apprendre, le bonheur d'être. Au fil des mois, 6 mois qui passent, il y en a qui finissent par dire que ça y est, ils sont fiers d'apprendre. Et même plus, ils partagent le plaisir de comprendre le sens du champ lexical et puis des autres thèmes qu'on a abordés et même avec les autres formateurs dans les autres matières. D'utiliser du nouveau vocabulaire, d'écrire ses propres textes. Un recueil a été fait, qui a été publié. De s'écouter mutuellement, de se valoriser mutuellement, de s'auto-évaluer, d'oser parler devant les autres. Bien sûr que les 6 mois ont passé et que dans les 12 jeunes qui sont restés constamment dans ce MAPI, 4 n'auront pas de projet à la suite de ce MAPI. Encore trop fragiles psychologiquement et encore en suivi psychiatrique lourd, ils sont encore enfermés dans ces problèmes et leur disponibilité mentale de liberté n'est pas encore complètement accessible, il leur faudra plus de temps. En revanche, tous les autres auront des projets, les uns bac pro, beaucoup de CAP dans plusieurs domaines différents, un ouvrier en sérigraphie, encore beaucoup d'autres, mais je vous épargne la liste. Et voilà le constat qu'on a fait. Les deux diapositives que je vous ai présentées au départ, qui étaient leur ressenti de liberté, un ressenti d'enfermement, alors que de notre côté, on était plutôt dans le débordement constaté, eh bien, au fil de semaine, on les a vus, doucement, sans injonction de la part des formateurs, aller vers un cadre plus cohérent de leur propre liberté, qui était notre projet d'accompagnement, retrouver cette liberté de se donner le droit d'apprendre. Et ça, pour nous, c'était vraiment quelque chose de très inattendu. Et c'est avec ça que je clôt cette petite présentation. Et je vous remercie de votre attention. Et je vous rappelle que les textes publiés, je les ai, s'il y en a qui veulent les consulter. Et que le PowerPoint, s'il y en a qui le souhaitent, je le partage volontiers. Merci.
Merci, Lancienne.
Est-ce que tu peux redire, Vinciane, la dernière phrase?
La dernière phrase je pense que c'est de m'être rencontré, demain peut exister,
je peux ouvrir le monde.
Voilà.
Après la dernière.
Parce que comme je l'ai recopié sur un de leurs textes, de m'être rencontré, je peux m'ouvrir au monde et demain pourra exister ou quelque chose comme ça. Mais je regarderai tout ça. Non, je pense que ça va me prendre du temps, je vais regarder tout ça. Si tu descends tout en dessous,
voilà.
Et la jeune qui m'a donné cette phrase m'a recontactée. Alors c'est un mapping qui a eu lieu il y a quelques années. Elle m'a recontactée à quelques semaines pour me demander si elle pouvait donner mes coordonnées à une amie. Je pense qu'elle me ressemble comme j'étais dans le temps.
Ah, c'est joli. Voilà. C'est joli.
Un peu de temps, ça nous permet de...
Voilà.
Ça marche ou pas?
Oui, c'est possible. Alors, je vous présente Sophie Martin, professeure d'histoire-géographie depuis 27 ans, qui est aussi PFA. Alors, je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup les sigles. PFA, ça veut dire professeur formateur académique à l'Académie de Paris, dans le domaine transversal, et elle va nous présenter des jeunes contraints par l'hospitalisation en psychiatrie dans un établissement de la Fondation Santé des étudiants de France, la clinique Georges Huillière.
Merci beaucoup Catherine, et bonjour à tous. Tanguy, Sylvana, Jérémy et Florence sont quatre élèves de terminale hospitalisés à... Voilà, peut-être pas, merci. Je recommence pour tout le monde. Je vous disais bonjour à tous. Je vais essayer de faire le plus court possible. Tanguy, donc Sylvana, Jérémy et Florence sont quatre élèves de terminale hospitalisés à temps plein à la clinique Georges Huillière, qui est une clinique psychiatrique soins-études. Ces jeunes peuvent néanmoins poursuivre leur scolarité dans le cadre des établissements de la Fondation Santé des étudiants de France, qui a pour objet social, en fait, d'associer dans un même lieu des soins et des études. Pour tous, apprendre est le théâtre d'un enjeu, celui d'une rencontre à haut risque. Excès ou évitement de l'apprentissage, attente démesurée de réussite scolaire ou déni des difficultés, blocage multiple. Ces postures sont autant de défis pour les enseignants qui s'interrogent alors sur les conditions propices à une rencontre des apprentissages plus sereines. Être libre d'apprendre en milieu psychiatrique, pour la plupart de nos jeunes, c'est être en quête d'identité d'élève, d'un élève dont les repères ont été remaniés par la maladie psychique qui a provoqué chez eux de nombreuses ruptures scolaires ainsi que des ruptures, disons, de la pensée. Comment alors accompagner la liberté d'apprendre par les stratégies d'apprentissage en milieu psychiatrique? À partir de quelques figures d'élèves, nous verrons comment le dialogue pédagogique peut être une frontière ouverte sur la rupture scolaire avant d'en évaluer les limites de sa pratique. Approchons donc cet acte d'apprendre à partir d'une tâche complexe, la mémorisation d'un croquis, qui est l'une des épreuves d'histoire-géographie du bac. Tanguy est un élève intelligent pour lequel apprendre ne s'appréhende pas autrement que par l'imagination libre. C'est sa liberté et il la clame haut et fort. Voici un extrait de notre échange. Comment faites-vous pour mémoriser un croquis, Tanguy? Tanguy me répond. Par exemple, le croquis de la cellule, je prends chacun des éléments qui la composent, je la vois visuellement. Quand j'ai compris, je la prends, mais jamais par cœur. Je lui propose alors de se confronter à la tâche, en lui demandant de mémoriser le croquis suivant, celui que vous avez à l'image, afin de le restituer sur une feuille blanche. C'est le croquis d'une ville américaine, et voici la restitution qu'en fait Tanguy quelques minutes plus tard. S'engage alors un dialogue autour de la tâche. Quel a été votre objectif face à ce travail? Pro, j'étais stressée, un peu paniquée. Je voulais en savoir le plus possible et pouvoir restituer exactement le croquis comme il était. Mais j'ai pas réussi. Je lui fais remarquer qu'il a recherché le par cœur, contrairement à ce qu'il m'avait annoncé. Il me répond « Ah oui, j'arrive en effet pas à faire autrement, cela a toujours été comme ça. » Comment avez-vous fait alors pour mémoriser ce croquis? Bah, c'est une ville américaine qui ressemble à un biscuit. La fraise, le coulis, la forme du biscuit, l'emballage, la marque, c'est l'aéroport. Il montre sur le croquis à quoi correspond chacun de ces éléments. C'est fréquent cette manière de faire pour vous? Oh, je crois que j'ai toujours fait comme ça. Mais ensuite, parfois, je n'arrive plus à savoir ce qu'était la vraie connaissance. Beaucoup de profs me disent que j'ai trop d'imagination. Comment avez-vous procédé pour restituer ce croquis? Je voyais le schéma dans ma tête, fragment par fragment, en me parlant. Puis je reproduisais au fur et à mesure sur le papier. Je suis très exigeant vis-à-vis des choses à mémoriser, car je n'aime pas être en échec, car je ne veux surtout pas devenir SDF. Quand vous dites que vous vous parliez, c'est une chose que vous faites souvent. Oui, je me parle toujours pour mémoriser, car ça m'aide. Le problème, c'est que les psys pensent que je délire sec. Dites, vous ne pourriez pas leur expliquer, vous? Alors, qu'en pensez-vous? Liberté d'apprendre ou contrainte d'apprendre? Profil d'apprentissage spécifique ou symptômes bruyants de la maladie? Pression ordinaire de la réussite scolaire ou pression surestimée par peur des conséquences de la maladie? Comment accompagner l'apprentissage afin qu'il soit moins contraint par le chaos partiel de cette imagination débridée et découvrir d'autres entrées pour mémoriser? Autant de questions qui sont le socle de réflexion sur ce temps de prise en charge pédagogique. Alors élargissons le tableau aux trois autres élèves et voyons comment cette tâche de mémorisation du croquis offre des contrastes saisissants. Sylvana, vous l'avez à l'image, a pour projet de sens de mettre en mots, les grands éléments du croquis. La structure de la légende est connue, sans ses détails, mais la partie schématique du croquis a été complètement mise de côté. Cette mémorisation incomplète est prise dans un accès au sens exclusif par les mots et par le refus d'envisager d'autres possibles. On prend la suite. Le projet de sens de Jérémy est le même que celui de Sylvana, connaître les grandes lignes. Mais à l'inverse de sa camarade, aucune connaissance n'est exprimée sous la forme de mots, comme vous pouvez le constater. Là encore, cette mémorisation est inachevée. Il résume sa difficulté ainsi. Il m'est impossible d'apprendre les mots par cœur, c'est trop chaud. Florence, quant à elle,
a le projet de tout apprendre par cœur, mais elle n'en comprend pas le sens. Elle ne sait pas comment elle a procédé, sinon en répétant à l'infini les mots. Cette mémorisation sans compréhension est prise dans une intense angoisse de l'espace. Elle me dira qu'elle se sentait avalée par la page blanche. Devant pareil constat, en quoi le dialogue pédagogique permettrait-il de dédramatiser et de favoriser l'apprentissage? Un premier élément de réponse me semble appartenir au cadre contenant de l'exercice du dialogue pédagogique. Chaque élève est placé dans une liberté d'acte, liberté de saisir, liberté de s'exprimer, liberté de détourner, liberté de partir. Autrement dit, son engagement dans le travail est le fruit de son choix. Cette liberté est rendue possible par la posture du professeur. Accueillir sans jugement, s'assurer de la bonne compréhension de ce que dit l'élève, savoir être silencieux ou au contraire, savoir emprunter utilement à notre propre histoire d'élève sont autant de leviers qui favorisent l'échange. Tenir compte de l'expression de la maladie, comme toc, pleurs et autres doudous qui s'invitent dans l'échange est une étape nécessaire avant de pouvoir s'en affranchir. Cette posture d'ailleurs empathique et bienveillante n'interdire pas du tout la posture d'explicitation des attentes scolaires, car la langue éducation nationale a souvent besoin d'être traduite, décodée pour ces jeunes. Elle n'interdit pas non plus d'investiguer le champ hors scolarité pour découvrir d'autres ressources sur lesquelles le jeune pourrait s'appuyer. Ainsi, cette liberté partagée est construite sur une alliance, un ajustement réciproque, dont le point nodal est la recherche de la bonne distance. Par exemple, expliquer le rôle de la prise de notes du professeur durant le dialogue pédagogique permet à l'élève inquiet, voire à tendance paranoïaque, d'en saisir le sens. Et pourtant, le dialogue pédagogique, c'est aussi une liberté surveillée, encadrée par les limites librement choisies par ses protagonistes. L'élève saisit la liberté qui lui est offerte tout en sachant à tout moment que ça donne des pistes de compréhension au professeur et que ce qui sera communiqué à ses soignants lui échappe. Inversement, le professeur mesurera dans son investigation des stratégies ce qui pourrait être vécu comme trop intrusif par l'élève ou qui nuirait à une bonne relation professeur-élève lorsque tous deux se retrouveront dans le cadre collectif de la classe. Cette fenêtre ouverte sur les stratégies d'apprentissage est précieuse car la maladie, les arrêts d'études plus ou moins longs et fréquents et parfois les traitements médicamenteux sont venus abraser non seulement leur confiance, mais aussi la construction et la fluidité de leur pensée, du fait de la mise entre parenthèses de l'efficience de certaines fonctions cognitives, comme l'attention ou la mémorisation. Ce type d'approche fonctionne bien également parce que leurs capacités d'introspection sont souvent plus élevées que celles d'un élève lambda, rompues qu'ils sont par les entretiens soignants à ces échanges duels. Ainsi, la prise de confiance en soi est souvent le premier effet immédiat du dialogue, prise de confiance dans les tâches scolaires, qui sont source d'une pression forte, poussant à des attitudes de contournement, de déni, voire d'abandon. Cette pression d'ailleurs n'est pas forcément corrélée aux compétences réelles de l'élève. Prise de confiance encore dans leurs capacités et leurs ressources, qu'ils méconnaissent parfois et qu'ils sont incapables de transférer dans le cadre scolaire. Il n'est donc pas rare que durant le dialogue, le rapport à l'école et au savoir soit questionné. Ce rapport consiste en une réappropriation du statut d'élève, mais lequel? En effet, ce cheminement très positif ne se fait pas sans souffrance, car le jeune découvre souvent que ce ne sera jamais comme avant et qu'il faut reconstruire autrement, par tâtonnement, avec toute l'ambivalence que ça génère pour eux, à savoir découverte de possible et deuil de l'élève qu'ils ont été. Si les bénéfices de la gestion mentale sont donc réels dans le présent de l'échange, ils sont questionnés, à mon sens, par le franchissement de temporalités successives. Comment, en effet, rendre compte du dialogue pédagogique? Jusqu'où partager l'analyse, le vécu d'expérience? Avec qui? Dans une clinique psychiatrique, cela soulève la question complexe du secret partagé. La première étape est toujours la restitution à l'élève. Il est proposé d'abord d'exposer son propre bilan du travail effectué. Cette restitution est souvent, on va dire, très pauvre, en raison à la fois de l'effet inhibant de l'exercice et de sa difficulté authentique. Puis, le professeur fait une restitution mettant en valeur les ressources de l'élève, y compris celles exprimées en dehors du cadre scolaire, et ses difficultés. L'écueil lors de cette étape est de mal mesurer l'effet du constat établi et celui des hypothèses et pistes de réflexion proposées. Jusqu'où partage-t-on notre analyse de la situation avec le jeune? C'est une vraie question. La seconde étape et la communication à d'autres professionnels de l'établissement, et tout particulièrement les soignants. Ce travail, quoi qu'il arrive, se fait avec l'accord explicite du jeune. Quelles sont alors les informations dont pourraient avoir besoin les soignants pour aider le jeune à avancer? Et en retour, de quoi le professeur aurait-il besoin pour éclairer son analyse? La présentation du tableau des stratégies d'apprentissage mettra volontiers en valeur un bilan rapide des ressources, des difficultés et des pistes envisagées, un bilan du rapport à l'école, quelles émotions suscite l'école face à la réussite ou à l'échec, ces émotions sont-elles la peur, le plaisir, le rejet, l'envie, un tremplin pour l'avenir, une contrainte sans objectif. Cette restitution sera également l'occasion d'une interrogation portant sur deux liens majeurs. Y a-t-il des liens avec une pathologie ancienne ou actuelle? Quelles sont les conséquences des traitements médicamenteux en matière d'apprentissage? Par ailleurs, y a-t-il des liens avec les représentations que se font les parents du monde scolaire et du travail de leur enfant? Quelles ont été leurs propres expériences scolaires? Quoi qu'il en soit, ce travail est délicat et toujours source pour tous les professionnels de censure plus ou moins consciente. Cependant, une autre censure, subtile, se glisse dans la pratique au quotidien. Si dans le présent de l'échange, le dialogue pédagogique est une fenêtre, je le disais, positive sur la réflexion sur les apprentissages et le rapport au savoir, le prolonger dans le moment d'après est très complexe. En effet, pour l'élève comme pour le professeur, il va falloir se réadapter à un nouveau cadre, celui du groupe classe. Cela signifie se confronter de nouveau à un espace de socialisation, à un espace d'apprentissage où les connaissances plus que les stratégies sont le cœur du travail. Quelle posture adopter quand il y a eu l'expérience du dialogue pédagogique pour l'élève comme pour le professeur? Doit-on saisir cette expérience comme point d'appui ou la mettre à distance? La question reste ouverte. La question du temps se pose encore quand on interroge l'utilisation postérieure que se fait l'élève de ses découvertes lors du dialogue pédagogique. Comment éviter en effet que ce savoir reste prisonnier de cet exercice? L'accompagnement au transfert et la mise en œuvre des pistes à tester est essentiel dans les temps qui suivent le dialogue pédagogique. L'accompagnement favorise l'inscription sur la durée de cette confiance emmagasinée. Cela dit, le franchissement de ces temps successifs s'impose souvent comme une limite majeure à l'efficacité de ce type de prise en charge. Mais n'est-ce pas là une variable consubstantielle de l'apprentissage, que quelque chose échappe à notre utopie d'accompagnement pour que l'élève demeure toujours libre d'agir? Ainsi, évaluer l'effet d'un dialogue pédagogique est complexe à mesurer, il peut être immédiat ou décalé dans le temps, porté sur quelques points ou plus global. Les critères d'évaluation sont donc multiples, mais toujours dépendants de l'évolution de la maladie. En somme, encore du temps. Redevenir élève est donc, vous l'aurez compris, un défi. Le dialogue pédagogique semble être un levier possible pour aider l'élève à se découvrir ou à se redécouvrir comme sujet apprenant. Cette prise de conscience lui permet souvent de reprendre confiance en ses potentialités, de trouver des pistes pour rebondir et parfois de redécouvrir le plaisir d'apprendre. La graine semée se développera parfois longtemps, mais n'est-ce pas là la liberté, ce qu'est la liberté d'apprendre, saisir quand on veut, quand on peut, ce que le rapport à la connaissance peut donner à chacun et transformer chez chacun. C'est dans le tissage de cette rencontre qu'une renégociation du sens de la scolarité peut s'amorcer, se parler. L'élève malade s'autorisera peut-être à redevenir un élève, un autre élève. Ainsi, apprendre pour ces jeunes gens en souffrance, c'est audacieux car c'est franchir ses frontières intimes. Redevenir élève est donc une quête et une liberté qui se conjuguent exclusivement au singulier. Merci de votre attention.